France Inter.
Il est l'heure de me rendre au bistrot où m'attend Alain Damasio. Je suis très très curieuse de le rencontrer. Allez, suivez-moi, on entre.
Goulé,
Alain Damasio, j'arrive, il est au téléphone avec un smartphone. En plus, il est avec Mark Zuckerberg au téléphone. Je suis contente de mon scoop. Bon, vous n'avez pas de smartphone, vous avez un téléphone à clapper?
J'ai rien du tout, ouais, vraiment. Ouais.
Ah, ouais. C'est vrai.
J'ai même pas de fil dans la maison. Ouais. On va peut-être avoir un fixe quand même, parce qu'on va choper la parabole, mais on est en pleine montagne à 1300 mètres. Quoi, donc,
mais demain, quoi, le Minitel? Oh
ouais,
là,
ça
est...
Non, mais on est
ouais. Ça, il va y avoir des ondes
isolés,
et tout,
quoi,
faites gaffe, c'est dangereux. Hein. on se met au boulot, là, qu'est-ce qu'on... La bosse, cette interview. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas là pour beurrer les sandwiches.
Charlie Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Alain Damasio, auteur de science-fiction, mais aussi connu pour votre discours anticapitaliste, pour soutenir les ZAD, les soulèvements de la Terre, on les connaît ceux-là. Mais alors, qu'est-ce que j'apprends, Alain Damasio? Vous sortez d'une école de commerce?
Mais ouais, c'est horrible. Là.
Mais vous vouliez tester un univers parallèle ou c'est comment?
Non, mais c'est bien, ça m'a obligé à complètement sortir des clous, parce que j'avais fait ça un peu par hasard, c'était juste pour la classe prépa. Et une fois que je suis rentré dans l'école de commerce, que je me suis pris le choc de la reproduction sociale de Bourdieu dans la tête. Moi, mon père était carrossier, donc et entraîneur de foot, donc j'étais vraiment un milieu populaire. Et j'ai vu que des fils d'eux, quoi, des filles de ministres, des fils de chefs d'entreprise, de PDG de Total.
C'était l'occasion de se faire du réseau.
Ouais, j'aurais pu attaquer comme ça. Et en fait, j'étais mal à l'aise et je me sentais pas du tout à ma place. Et ce qui m'a donné envie d'écrire, donc ça a été une bonne chose.
Parce que vous étiez éligible à HEC, et il paraît que vous avez choisi l'ESSEC pour suivre une meuf.
Ouais, il faut pas le dire, mais c'est vrai.
Ah c'est trop tard.
Ouais, j'étais amoureux, et elle avait eu l'ESSEC, et du coup, j'ai choisi l'ESSEC.
Vous étiez amoureux d'une fille d'eux?
Elle était pas fille d'eux, non, ça va. C'était, mais elle était en prépa avec moi, ouais. Donc c'était très chouette. Ouais,
et comment ça s'est passé le week-end d'intégration à l'ESSEC? Vous êtes bien intégré ou pas? Vous avez fait de la
voile. J'ai le droit de raconter ça. Là, je vais raconter un truc trash.
Ouais,
quand même,
allez-y.
Non, c'était week-end d'intégration en Corse. Et ça s'est mal passé la soirée. J'avais beaucoup bu.
Normal, hein, une soirée d'intégration.
J'ai fini par défoncer les cloisons des toilettes. Et après, j'étais convoqué le lendemain par le bureau des élèves en disant, là, on est mal. Et tu vas pas nous faire ça à chaque fois. Je fais, non, mais là, c'est la vodka, tout ça.
Donc, vous ça étiez très énervé à l'ESSEC, quoi.
Ouais, mais c'est tension, la jeunesse, quoi. C'est les hormones, c'est le...
On va titrer cette émission. Il a déglingué les toilettes à une soirée de l'ESSEC. Ça et le smartphone, Alain Damasio, c'est parti en sucette, cette émission déjà. Ça aide d'avoir fait une école de commerce quand on veut vendre des livres?
Je sais pas si ça aide. Ce qui aide, c'est la prépa. Franchement, les prépas françaises, elles sont incroyables. Ouais. Moi, je défends vraiment la prépa comme une espèce d'athlétisme intellectuel, mais très français, quoi, très, très élitiste. Mais malgré tout, ça te donne une capacité qui te sert partout. Après, les écoles elles-mêmes, quand tu rentres, c'est catastrophique. C'est-à-dire que on sélectionne soi-disant les cerveaux les plus performants, mais pour faire du marketing, du comportement du consommateur, pour faire des choses qui n'ont strictement aucun intérêt intellectuellement, qui sont très pauvres. Mmh. Et ça, c'était très révoltant. C'est-à-dire de dire, mais vous sélectionnez en fait une élite pour lui faire faire des choses qui sont juste maximiser le profit des entreprises, et c'est tout. Et cette intelligence que vous êtes censé sélectionner, vous la faites servir à des motifs qui sont... ignoble, au sens où ignoble, ça veut dire le contraire de noble, quoi.
Et il faudrait les mettre où, ces intelligences naturelles?
Là, il faudrait les mettre toutes sur la lutte contre la crise climatique, par exemple, quoi. Tu vois, il faudrait tous ces cerveaux-là se dire, OK, là, il y a un enjeu qui touche la totalité de la planète. Qu'est-ce qu'on fait pour ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que la Terre, elle se mette à brûler?
Ça rapporte pas de blé, donc c'est ça, en fait.
Le problème. Ouais. Mais là, il y aurait un vrai intérêt à sélectionner les cerveaux pour ça, quoi.
Et quand vous ne viviez pas encore de littérature et d'eau fraîche, vous avez monté une petite société de conseil, ça? Vous étiez un mini McKinsey?
Vous êtes bien renseigné. J'aimais bien appeler ça cabinet. Cabinet d'études socio-économiques, ça s'appelait.
S'écroule. Alain Damasio.
Et en fait, moi, je refusais de travailler pour le privé, parce que j'étais déjà très, très à gauche. Je travaillais donc pour le public, caisse d'allocation familiale et parcs naturels régionaux. Voilà, c'était mes deux.
Donc c'était sympa. Consulting pour la
CAF. Mais c'était sympa. Okay. Ça, c'était vraiment sympa. Et ça me donnait les noisettes pour ensuite aller écrire. C'est-à-dire que à un moment-là, j'avais suffisamment d'argent, je pouvais écrire sans qu'on m'embête, puisque j'étais pas salarié, j'étais mon propre patron.
Parce que la première fois que vous écrivez, C'est une réécriture du Rouge et le Noir de Stendhal pour essayer de pécho, en fait.
Voilà, incroyable. Mais vous allez chercher ça où? Parce que ça, c'est très peu de gens qui connaissent ça. Ah, c'est fou.
Ouais,
c'est
ah, un texte que j'avais fait.
Non, c'était un plaidoyer, comme le plaidoyer, comment il s'appelle, Julien Sorel dans le Rouge et le Noir. Mm-hmm. Mais pour essayer d'expliquer que j'étais quelqu'un de bien et que je méritais aussi l'amour. Voilà, c'était ça un peu le.
Trop mignon.
C'était mignon, non, c'était super mignon.
Moi, j'aurais craqué.
C'était le premier texte.
Ouais. Ouais.
Ça même, pas si
vous
du tout.
Même si vous sortiez d'une école de commerce,
ça n'a pas marché.
Ah, ça n'a pas marché. Vous avez pas pécho. Oh là 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 là.
C'était.
Et puis, enfant, il y avait un terrain vague à côté de la maison, votre terrain de jeu de l'imaginaire, votre première ZAD en fait.
Et oui, ouais. Mais c'est là que je m'éclatais, que tout mon imaginaire se développait. Il y avait des lianes, il y avait des cerisiers, il y avait des tunnels de ronces. Il y avait. Ça a déployé beaucoup de choses. Ah, ouais. C'était chouette.
Donc l'espace, cette ZAD, ce terrain vague à côté de chez vous, qui vous intéresse, la ZAD, vous l'observez, vous la défendez. Et puis on va arriver à la Silicon Valley, puisque vous publiez « Vallée du silicium » paru au Seuil. La ZAD, c'est l'anti-Silicon Valley? Ça, c'est vraiment diamétralement opposé? C'est les deux espaces
Ouais, ça serait vraiment... je pense que c'est vraiment une antipode. Mm-hmm. La ZAD est très low-tech, c'est-à-dire qu'ils acceptent l'idée que... on prend des technologies réparables, recyclables, on essaie de manipuler. Ce qui est génial, c'est l'autoconstruction dans la ZAD. Moi, la première chose qui m'a frappé, il y avait une cabane faite entièrement en argile, hein, qui était magnifique. Il y avait des espèces de sphères faites avec des palettes, avec des morceaux de verre récupérés, mis en diagonale. Enfin, le côté architecture, moi j'adore ça. Et c'est super beau, en fait, c'est beaucoup plus beau que quelque chose de construit
de façon carrée. On est connecté, mais aux endives, quoi.
C'est l'inverse technologiquement, parce que vraiment, c'est l'high-tech absolue, la Silicon Valley. Et puis après, bien sûr, c'est l'acmé du technocapitalisme, quoi. Donc tu peux pas faire plus loin la ZAD que ça, quoi.
Vallée du silicium, paru au Seuil, traduction littérale de Silicon Valley, la zone où sont regroupées les industries de pointe près de San Francisco, que vous avez visité, et que vous racontez sous forme de chronique, de nouvelles, je dirais de reportages, donc l'auteur de science-fiction qui se met à raconter le réel. Donc ça y est, Alain Damasio, vous êtes à la remorque du réel, en fait, maintenant.
Ouais, c'est quasiment ça. Non, ce qui était super pour moi, c'est de me dire, j'ai beaucoup parlé, évidemment, de ce que la technologie nous fait. Pour moi, c'est le cœur de la science-fiction, c'est pas les robots, les androïdes, la visite des planètes et les vaisseaux spatiaux. La science-fiction, c'est de comprendre ce que la technologie nous fait au quotidien. Qu'est-ce que nous fait un smartphone? Comment le smartphone a tout révolutionné dans notre façon de vivre, de travailler, de jouer, d'échanger, de prélever notre mémoire, d'orpailler cette mémoire personnelle. Donc ça, c'est vraiment la science-fiction. C'est comment ça change ton rapport au monde, comment ça change ton rapport aux autres, comment surtout ça change ton rapport à toi-même, parce que tu te construis par les réseaux sociaux, tu te construis par les jeux vidéo, tu te construis par ton lien aux interfaces. Donc d'aller voir là-bas comment ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, quel est leur état d'esprit, quels sont les affects dominants, parce que moi j'aime bien essayer de voir un peu les émotions, les affects qui les habitent. Je trouvais ça génial.
Ils en ont donc.
Ils en ont, mais très peu, ils sont assez désaffectés. Ouais. Et en fait, c'était fou parce que j'y allais comme ça en me disant « Ouais, je vais aller voir le centre du monde », mais je plaisantais un peu intérieurement. Et en fait, quand il va, ils le prennent très au sérieux. Ils se vivent comme le centre du monde. Et moi, je trouve qu'en un sens, ils ont raison parce que c'est eux qui font nos quotidiens. Tous les outils qu'on a là sur la table, tous les smartphones que je vois, toutes les applis qu'il y a dans ces smartphones, ils naissent à la Silicon Valley. Ils sont construits, designés par la Silicon Valley. Donc finalement, ces 5 grosses entreprises qui s'appellent les GAFAM, qui sont les 5 plus grosses capitalisations boursières, c'est elles qui construisent la vie de milliards d'individus aujourd'hui. Donc, aller voir comment ça se passe, c'est intéressant. Ouais.
Alors, il est beaucoup question d'intelligence artificielle, bien sûr. Qu'est-ce qui me prouve que votre livre, il n'a pas été écrit par ChatGPT?
Alors, il a été écrit en partie par ChatGPT, puisque j'ai dans la nouvelle, en tout cas, il y a un moment donné où j'ai utilisé ChatGPT, parce que, bon, en plus, la nouvelle, elle porte sur des IA, donc c'est des IA qui dialoguent, des IA domotiques qui dialoguent avec les personnages. Et à un moment donné, j'avais cette scène que j'aimais beaucoup et qui était très, très atroce, qui était l'IA, donc, domotique a bloqué le père dans une pièce et sa fille est de l'autre côté dans sa chambre. Et il doit prouver à l'IA qu'il n'est pas un père violent. Or, l'IA a prélevé qu'à un moment donné, il lui avait mis une gifle quand même, il y a 3 ans, etc. Ouais. Et là, je lui ai demandé, voilà, ChatGPT, imagine que tu es un psychologue, tu accueilles un père qui est soupçonné d'avoir pu être violent avec sa fille. Quelles questions tu lui poses pour essayer de savoir si oui ou non il a été violent? Et j'ai récupéré toutes ces questions-là, je les ai réagencé, réarpaillé à ma façon. J'ai mis un peu plus d'agressivité et de perversion. Mais par contre, c'était génial parce que j'avais la parole de l'IA, j'avais la vraie parole de l'IA. Et
moi, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire un texte sur les entreprises de la Silicon Valley avec le style d'Alain Damasio. Vous avez déjà essayé ou pas ?
Non, j'ai pas essayé ça.
Je vous lis un extrait, c'est le début. C'est ChatGPT qui écrit. Hein. Dans les ruelles électroniques de la Silicon Valley, les entreprises émergent telles des phénix numériques, leur code génétique façonné dans les soubresauts des réseaux et des algorithmes. Chaque édifice est un sanctuaire où l'innovation se forge dans les bras de l'urgence et de la compétition fébrile.
C'est pas mal.
Vous vous retrouvez un peu ou pas ?
Les bras de l'urgence. Il y a quelques expressions ou mots clés que j'aurais pu utiliser vraiment comme soubresaut, des choses comme ça. Il y a un vocabulaire, on a un lexique, hein, de toute façon. Moi, je sais que j'utilise beaucoup compact, bloc, des choses comme ça, impact, des mots assez péchus. Bon, si tu orpailles mon style, tu vas les retrouver, quoi. Donc,
orpailler, vous utilisez pas mal aussi.
Ouais.
J'ai remarqué.
Ça fait déjà 4 fois que je l'utilise dans l'émission.
On aime bien ce joli, ça va rentrer dans
le langage. Ce qui est marrant, là, par contre, tu vois, il y a une tentative de pas mettre des mots trop attendus. C'est-à-dire que le langage est pas trop probabiliste.
Ouais.
Même ruelle électronique, c'est pas un couplage qu'on a l'habitude de voir.
À ChatGPT, il s'est mis la pression, hein. Il s'est dit, oulala, si je dois écrire comme Alain Damasio,
il déjoue sa propre logique probabilitaire.
Ouais. Dans ce livre, Vallée du Silicium, il y a une punchline qui m'a sauté aux yeux parmi les autres. La vérité du monde qui vient est qu'il ne veut plus physiquement qu'on bouge. Ouais. C'est-à-dire que notre territoire de vie aujourd'hui, c'est ce que vous appelez le parallélépipède d'aluminium de la taille d'une main. Ouais. Et donc, les GAFA, ils nous assignent un territoire de la taille de notre smartphone.
Ce qui est complètement fascinant, c'est ça. C'est-à-dire que tu vends le mouvement, tu vends l'espèce d'ubiquité que permet le numérique, tu vends la vitesse lumière, tu vends le fait d'être ici et ailleurs et de parler à des gens qui sont en Corée, et puis ensuite à des gens qui sont au Costa Rica, etc. Tu vends ça, mais finalement, le vrai rêve, il est le corps assis sur un sofa ou dans un canapé moelleux, le corps qui ne bouge pas, le corps qui ne franchit pas de frontières, le corps qui n'est pas migrant, qui n'est pas étranger, qui va pas arriver à Lampedusa, ou s'il arrive à Lampedusa pour lui qui meurt dans la mer Méditerranée, finalement, c'est ça, quoi. Et des frontières partout, en fait. Et même l'espace Internet qui se définissait au début comme un espace lisse au sens de Deleuze, c'est-à-dire un espace où tu peux circuler sans être arrêté, sans être bloqué, c'est devenu un espace trié, puisqu'il faut être abonné, il faut être inscrit, il faut avoir les mots de passe, donc tu circules plus du tout de façon fluide, je trouve, sur le réseau. Moi, je m'anonymise beaucoup, j'ai des VPN, etc. Donc Google me reconnaît pas, donc Google me fait faire des captcha à chaque recherche. Donc je suis le spécialiste des captcha à reconnaître des bus et des et ça c'est fou, mais c'est la condition pour être anonymisé, quoi. Ouais. Tu vois, si tu joues pas le jeu, et ben à chaque fois il faut reprouver que t'es pas un robot. Je suis un robot supposé parce que je suis anonyme. Et faire des captcha, c'est en plus alimenter toute la robotisation de la reconnaissance d'image, quoi. Donc, les absurdités, les boucles d'absurdités sont assez géantes, quoi, là-dessus.
Ça vous angoisse pas trop de me confier toutes vos données personnelles pendant cet entretien?
Là, ça va. C'est un choix public. Je choisis d'avoir une parole publique, donc c'est pas un problème. Quand j'ai des paroles privées et qu'on me les prend malgré moi, là, c'est grave. Par contre, parole publique, c'est bien de les assumer et puis de dire, voilà.
Bistroscopie. Charline Vaninacker sur France Inter.
Quelle chance de boire un coup avec Alain Damasio. Heureuse de vous faire partager ce moment grâce à la radio, l'ancêtre du streaming audio sur votre smartphone. Alain Damasio, vous publiez Vallée du Silicium, paru au Seuil dans la collection Albertine. Le silicium, est-ce que c'est pas le deuxième élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l'oxygène ?
C'est vrai, je crois.
Est-ce que donc c'est pas logique que le silicium soit devenu notre deuxième oxygène ? En fait, c'était déjà inscrit dans la croûte terrestre.
C'est beau.
Vous pensiez prendre juste l'apéro avec moi, mais on est là pour bosser aussi, hein.
Non, ce qui est marrant, c'est que en fait, quand tu vas dans la Silicon Valley, les sols sont totalement pollués parce que pour faire les circuits imprimés, t'es obligé d'utiliser des substances très toxiques. Et les maisons sont surélevées de 3 ou 4 mètres parce que t'as des remontées dans la nappe phréatique, t'as des remontées de ces produits toxiques et qui font que tu te dis, ah ouais, quand même.
Mais donc, comme le silicium est aussi présent que l'oxygène, finalement, qu'on respire.
Ouais, mais en tout cas, on respire dans l'électricité et dans le silicium. Ouais, c'est sûr, c'est notre biotope. Hein, notre biotope, c'est les circuits imprimés. Hein.
On était destinés à ça, quoi.
Mais ouais, c'est très étonnant. T'as l'impression d'être miniaturisé et piégé dans un circuit imprimé. Ouais.
Et ceux qui arrivent à pas se laisser piéger, finalement, est-ce que c'est pas, comme on est possédé par tous ces objets et cette technologie, c'est pas les hackers, finalement, qui...
Bah, les hackers, c'est... c'est la façon prestigieuse de s'en sortir. C'est-à-dire que les hackers, ils savent effectivement bricoler, ils savent recoder, ils savent développer, c'est-à-dire programmer de façon à ce que la machine fasse autre chose que ce qu'on a prévu qu'elle fasse. Et ils ont l'autonomie sur la technologie. Nous, notre gros problème, c'est qu'on est hétéronome, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est complètement dépendant de la façon dont les applis ont été construites, ont été codées, ont été programmées. Il y a une façon de les utiliser et pas une autre. Mais en réalité, ils ont décidé pour nous de l'expérience utilisateur et de comment l'interface décide. C'est pareil sur les chauffeurs Uber, où c'est-à-dire que l'interface, c'est elle qui décide quand tu peux faire ta pause et comment, etc. Et l'interface, elle est féroce, quoi. Elle est plus féroce qu'un chef et tu peux pas lutter contre elle parce qu'il n'y a pas d'interaction humaine.
Les voitures autonomes, vous en parlez, sans chauffeur, donc elles existent grâce à toutes les données récoltées par les chauffeurs Uber. Donc en fait, les chauffeurs Uber, ils bossent comme des damnés pour perdre leur boulot, en fait, pour se faire remplacer par les voitures sans chauffeur.
C'est vraiment une double exploitation, ça m'a frappé là-bas. Ouais. C'est-à-dire que, d'abord, ils sont exploités parce que la plateforme leur prend énormément de la course, quoi. C'est juste pour mettre en relation avec le client. Et derrière, la deuxième exploitation, c'est qu'ils prennent les données de conduite. Toutes les données de conduite sont enregistrées et ensuite sont balancées dans le big data, ce qui fait que les voitures autonomes vont pouvoir conduire comme un être humain aussi bien parce qu'elles ont récupéré toutes les données. Donc bientôt, ils seront jetés comme une éponge. C'est déjà le cas, hein, puisque maintenant, ça y est, depuis 2023, là, les voitures autonomes tournent à San Francisco.
À San Francisco, ouais.
Et donc, ils ont réussi. Et c'était terrible de voir toutes ces voitures équipées de capteurs qui tournaient dans la ville avec un chauffeur derrière le volant. Une sorte de zombie, parce qu'on les voyait. Et en fait, ils conduisaient à vide, sans client, juste pour amener du data, quoi.
Alors, vous mettez un peu de chair aussi dans ce livre, bien sûr, grâce à des personnages. Je voudrais que vous me dressiez le portrait de Grégory Renard, moi, je dirais artiste du data, c'est ça ?
Ouais, on peut dire ça. Ouais, même artiste des machines de langage, quoi. Vraiment, créateur, pour moi, trouveur. Mm-hmm. Et lui, c'est, moi, il m'a fait cet effet un peu quand on dit Picasso, il cherche pas, il trouve. Mais lui, c'est pareil, il trouve les méthodes de programmation, la façon de programmer ses chatbots, ses IA, pour que ça résolve des problèmes assez complexes. Donc j'ai beaucoup aimé l'entendre, j'ai beaucoup aimé mettre les mains grâce à lui dans cet artisanat-là. Et tu te rends compte que coder, ça peut être magnifique, quoi, voilà. Après, lui, il se fait ses propres vues de presse chaque jour parce qu'il reprogramme à chaque fois ses IA pour les avoir. Il a des boards of IA, comme il dit, quoi. C'est-à-dire des espèces de groupes d'IA qui va pondérer pour prendre des décisions. C'est-à-dire qu'il les fait travailler de façon collective, mais et démocratique. Il travaille aussi pour essayer de comprendre comment l'attaque du Capitole a été montée par les IA d'extrême droite. Il travaille pour essayer d'introduire des valeurs humaines dans la machine aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui montre qu'on peut travailler sur les IA de façon évidemment éthique, intéressante, profonde, humaine. Mais tout le monde n'est pas là-dessus, sur ces modes-là, quoi. Donc c'est un peu... je dis pas que c'est l'exception, parce qu'il y a d'autres gens qui ont ces velléités très positives par rapport à leur travail sur les IA. Mais lui, c'était très beau de le voir en parler. Et puis vraiment, il le voit, t'avais l'impression que le data, pour lui, c'est inno. Et ça, des fois, c'est une banquise, des fois, c'est de la brume, des fois, c'est un nuage, des fois, c'est une rivière qui coule. Il le sentait de façon très, très kinesthésique, très... C'est très beau.
Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas un robot, dites donc?
Ah, je l'ai vu. Non, il boit des bières, donc ça va.
Alors...
C'est la preuve.
On évoquait tout à l'heure les voitures autonomes à San Francisco. Cette chronique sur les voitures en Californie, est-ce que c'est pas un peu la synthèse de votre histoire familiale avec un père carrossier, une mère agrégée d'anglais? Je me suis dit, comment un carrossier rencontre une agrégée? Est-ce que votre mère s'est fait emboutir une portière?
C'est pas mal. En plus, pour moi, les États-Unis, je l'ai dit à un moment donné, c'est mythique dans l'histoire familiale. J'étais allé à 7 ans avec ma sœur, mon frère et ma famille. Au moment où mes parents étaient encore ensemble, après ils se sont séparés. Mm-hmm. Et c'était le voyage mythique. Et donc ils retournaient, et notamment à San Francisco, on avait fait un peu comme dans Bullet, où on descendait en voiture sur les... C'était très émouvant pour moi d'avoir ça, quoi. Et puis c'était juste après la mort de mon père, donc mon frère est venu avec les cendres de mon père. On les a mis dans le Pacifique, c'était très beau. Et on était très heureux de pouvoir le faire.
Mais ils se sont rencontrés comment alors? Elle s'est pas fait emboutir là-bas. Ah bon?
Ouais.
Ah d'accord. On s'y attend pas.
Je casse le mythe, non.
Non.
Mais ouais, non, c'était... Ouais.
Alain Damasio, est-ce que la science-fiction, c'est votre manière à vous de faire de la politique?
Ah oui, ouais, complètement. Et ça, elle a été dès le début, quoi.
Démasqué, allez hop.
Ouais, non, mais dès le début, dès 22 ans, quand je fais mon premier livre, La Zone du Dehors, c'est pour faire de la politique, pour moi, quoi. Et comme j'arrivais pas à trouver des lieux de militance à l'époque... Mes parents n'avaient pas une culture militante du tout, donc je faisais pas les manifs. Et du coup, je trouvais pas. J'étais Amnesty International, j'étais au Parti Humaniste, mais j'y trouvais pas.
Au Parti quoi ?
Humaniste à l'époque,
humaniste.
Ça s'appelait. Ouais. C'était un truc assez bizarre. Et en fait, je me suis mis à écrire parce que je trouvais pas de point d'échappée. Je trouvais pas de ligne de fuite pour essayer de porter ce que j'avais envie de porter. J'avais quand même cette boule au ventre, cette espèce de rage sur ce qui venait. Et j'ai fait la zone du dehors comme critique de la société de contrôle. C'était mon 84, mais de la société de contrôle. Parce que c'est-à-dire que le 84 d'Orwell est un livre sur la société disciplinaire et sur le totalitarisme. Donc moi, je disais non, on passe au régime de contrôle. C'est ce que Deleuze nous m'avait fait comprendre. Et j'essayais de pointer ça et de montrer comment ça fonctionnait. Mais à l'époque, on n'avait même pas encore Internet et le numérique. Quand le numérique est arrivé, la société de contrôle a explosé. La société de trace est devenue encore beaucoup plus fin, beaucoup plus subtile, la façon dont on peut effectivement suivre, surveiller, épouser le moindre geste, le moindre mouvement, le moindre message des gens. C'est bien plus fort que 84. Tu vois, 84, il peut quand même se mettre dans le coin du mur écran et écrire sur son petit carnet, quoi. Nous, quand on écrit sur petit carnet, c'est qu'on envoie un SMS, qu'on envoie un mail, qu'on envoie un message, et que de toute façon, ça laisse une trace sur le réseau. Donc, si un policier veut descendre, comme on parlait des soulèvements, à partir du moment où tu commences à être un peu dans la visée du pouvoir, tu sais que n'importe quoi potentiellement est récupérable.
En plus, là, si ça se trouve, on est écouté.
Non, je crois pas. L'émission, elle est. Vous avez combien d'auditeurs de 20?
On écoute, peut-être qu'on est écouté par le pouvoir, on sait pas. En tout cas, on a appris cette semaine que le Rassemblement National est en train, depuis le début de l'année, de former ses équipes à l'intelligence artificielle.
Ça, il faut qu'on en parle.
Voilà, pour préparer une campagne politique. C'est ça l'intérêt du RN.
En fait, tu te rends compte qu'eux, ils ont compris, avant d'autres partis, les ressources, la potentialité de pouvoir que ça donnait. C'est eux qui ont fait les premiers deepfakes, c'est eux qui ont utilisé sur le Capitole, on le sait maintenant, c'est-à-dire vraiment ils ont utilisé ça s'appelle des bots, quoi, c'est-à-dire des robots.
Il y a même un personnage virtuel qui s'appelle, je pense, Clémentine Le Pen, qui a un deepfake, non?
Ouais, c'est fou. Ouais. Mais là, les prochaines campagnes, je pense, présidentielles, partout dans tous les pays du monde, il va y avoir énormément de deepfakes, il va y avoir énormément de mauvaises informations, il va y avoir beaucoup de constructions quand tu vois la qualité des deepfakes, la qualité des deepfakes de voix aussi, sur la voix pure. Sur les images, sur les vidéos.
Que ça tombe aux mains de l'extrême droite en premier ou qu'ils aient eu l'intelligence naturelle, ça, on s'en doutait pas, mais d'aller chercher.
Non, mais eux, ils cherchent immédiatement le rendement en termes de pouvoir immédiat, quoi. Et donc, ils ont compris que, effectivement, avec une IA, aujourd'hui, tu peux obtenir des choses extrêmement efficaces, extrêmement performantes. Donc, ils vont sauter dessus, quoi. C'est évident, quoi.
Donc, il faut que les autres partis politiques, ils perdent pas de temps et ils s'y mettent aussi? Ou c'est, justement, il faut résister?
Ça va être une politique d'armement avec l'IA, quoi. Mais on va avoir des débats qui seront des débats d'IA, en fait, tu vois. C'est à qui programmera le mieux l'IA, avec plus de puissance, avec plus de ressources. Et il y aura même plus de débats. Moi, j'ai l'impression que sur les campagnes présidentielles, comme c'est beaucoup du message pur et bourrin, c'est les IA qui vont travailler, quoi. Mais à partir du moment où tu comprends que c'est des machines de langage, tu te dis, mais avec le langage, tout ce qu'on peut faire, c'est notre médium à nous, quoi. C'est notre façon de communiquer à nous. Donc, si tu rentres par la machine de langage, tu peux tout faire, tu peux tout atteindre.
Et pendant que le RN s'arme d'intelligence artificielle, le Premier ministre Gabriel Attal déclare « Je ne veux pas d'un pays où TikTok remplace les romans ».
Ils me font marrer, quoi, franchement. C'est des clowns. Parce que parallèlement, ils font
tout un discours. C'est pas sympa pour les clowns.
C'est vraiment pas sympa pour les clowns. En même temps, ils prônent l'IA pour l'école, etc. Et je pense qu'ils comprennent absolument rien à ce qui se passe. Il y a un enjeu colossal qui est l'éducation. On l'a dit, mais l'éducation à la technologie. Si je veux dire Gabriel Attal, qui est passé par l'éducation nationale, s'il avait un gramme d'intelligence, mais vraiment, quoi, la première chose qu'il ferait, il dirait, OK, il y a les maths et français, deux matières fondamentales. La troisième matière fondamentale, ça va être la techno. Et quand je dis la techno, ça va être apprendre à se servir des réseaux sociaux, apprendre à se servir de moteur de recherche, apprendre à se servir de l'IA, apprendre aux gamins à s'en servir, pas pour tricher, mais pour s'émanciper, pour se construire, pour créer, apprendre à se servir d'un jeu vidéo. Tout ça, ça s'apprend, ça s'éduque. Et il faut éduquer les gamins dès la sixième à ça. Voilà. Et là, on ferait des citoyens émancipés. Là, on ferait des citoyens libres, on ferait des citoyens intelligents. C'est le rôle de l'éducation nationale. Qu'ils ne fassent pas ça, ça veut dire qu'ils laissent aux GAFAM le pouvoir de nous transformer en barbares des réseaux. Voilà. Et de nous laisser en barbares des réseaux, non éduqués. Ça, c'est le vrai boulot de l'éducation nationale. Donc, tu t'arrives. Moi, tu me nommes ministre de l'éducation nationale demain.
Oui, oui.
C'est la première chose que je fais. Mais c'est la première chose que je fais. Ouais. Tu vois? Ça, c'est vraiment précieux pour libérer les gamins. Les gamins, ils se prennent la vague technologique telle qu'elle arrive. Comment tu veux qu'ils comprennent ce que ça signifie TikTok? Comment la boucle de dépendance se crée sur TikTok? Ils peuvent pas savoir. Ils le prennent. Ils ont 10 ans, quoi. Et ça, c'est anormal. Ça fait 30 ans qu'on prend les vagues, les tsunamis, et là arrive la plus grosse de toutes les vagues pour moi, tu vois, la troisième grosse révolution numérique. Il y a Internet, le smartphone, et maintenant l'IA. Mmh. Et l'IA, ça va toucher absolument tous les métiers, toutes les façons de fonctionner, tous les rapports entre les gens, etc. Même maintenant, les gens, ils utilisent l'IA pour se faire des lettres d'amour sur Tinder, etc. Tu vois, tu séduis avec l'IA. C'est comme ça que c'est, tu fais des prompts pour, bon.
Alors qu'il vaut mieux adapter le rouge et le noir de Stendhal. Mais c'est peut-être
on a
efficace.
Vu l'efficacité que ça avait eu. Ouais. mais voilà. Donc, cet enjeu de l'éducation, il est central. Non, je vais postuler au poste de ministre de l'éducation.
Bah ouais. Et en plus là, tout le monde va voter pour vous parce que les gamins qui savent qu'ils vont faire 4 heures de jeux vidéo par semaine à l'école.
On a tout gagné.
En plus là, vous allez me rajeunir l'audience de l'émission, c'est formidable. Alain Damasio.
Mais juste un truc là-dessus.
Ouais,
mais tu vois, moi je vois, je suis dans un milieu comme je suis artiste, donc je suis dans un milieu bobo. Je vois tous les parents que je connaisse, ils font une chose de bien en éducation. Ils font attention à quelle série télé regardent leurs gamins, quel long métrage et quel livre ils lisent. Ça, c'est traité. Je n'en connais aucun qui apprend à ses enfants à jouer aux bons jeux vidéo. Or, les jeux vidéo, c'est un outil extraordinaire de construction cognitive. Il y a des jeux fabuleux. Et bien, au bout de 50 ans, on n'a encore aucun parent, même dans les parents, on va dire, de gauche éduqués, tout ce que tu veux, qui apprennent, en fait, à leurs gamins les bons jeux.
Donc, Alain Damasio, il se colle quand même devant des écrans, c'est pour jouer à... des jeux vidéo, mais les bons jeux vidéo.
Bistroscopie, Charline Vanhoenacker sur France Inter.
Et puis vous féminisez les pluriels, vous inventez des mots. En fait, vous cherchez à assassiner l'Académie française aussi.
Non, mais là, j'étais content parce qu'on s'est battu sur l'écriture inclusive, etc. Moi, le point médian, je ne supporte pas. J'en ai marre des tracts militants. J'en vois plein passer avec le point médian. C'est juste illisible, quoi. Après, la nouvelle mode, c'est auteurice. Vous connaissez le truc. C'est-à-dire, tu dis pas animateur ou animatrice, tu dis animateurice. Mm-hmm. Comme ça, t'as pas besoin de mettre de points médians, machin. Ouais. Sauf que tu rajoutes 2 syllabes à chaque fois.
Ouais.
Donc, quand tu commences à arriver à instituteuriste, tu fais, oula, ça va être lourd, quoi, tu vois. Ou, les valeureuses, tu vois, au lieu de dire valeureux ou valeureuse, tu dis valeureuse. Tu es là, tu, t'as l'impression que tu mets de l'heureuse partout, quoi. Et je me dis, non, on peut pas faire ça. Donc, moi, j'ai dit, c'est très simple. En fait, on a subsumé le féminin sous le masculin pendant 4 siècles, hein. Bah maintenant, quand on dit nous européennes, on n'a qu'à dire nous européennes. Et puis c'est au mec de comprendre que derrière nous européennes, il y a les Européens aussi.
Pendant 4 siècles pour équilibrer.
Ah ouais.
Allez,
presque. Non, peut-être pas. mais tu vois, en tout cas, c'est une solution très simple. Moi, je l'ai fait une chronique sur 2. Je dis voilà, mais pourquoi se prendre la tête alors que c'est très simple. Faisons éprouver au mâle dominant comme moi je suis ce que ça fait d'être invisibilisé derrière le féminin pluriel. Et peut-être qu'au bout d'un moment, tu comprendras que quand même, il y a un problème à avoir que du masculin pluriel. Voilà. Et je trouve que ça marche bien. Mmh. Et même moi, ça m'a perturbé en le faisant. Tu vois, j'étais là, je disais, nous autres, européennes. Je disais, oh non, mais pourquoi j'écris ça? Je suis pas européenne. Je disais, bah si, mais c'est ta règle, mon pote. Donc vas-y, fais ce que t'as dit, quoi. Et je me suis forcé à le faire. Et ça m'a moi-même dérangé, mais voilà, je me suis secoué.
Une dernière question, Alain Damasio. Vous vous décrivez comme un artisan aussi. Vous dites, si nous avons une responsabilité politique, elle est de battre le capitalisme sur le terrain du désir.
Ah ouais, ça c'est super important.
C'est vachement beau. Alors, vous pouvez nous faire un petit tuto pour finir, battre le capitalisme sur le terrain du désir?
Ouais, c'est un super sujet. Là, on a parlé du technocapitalisme, donc on a vu qu'ils outillaient la paresse. Dans les économies de désir du capitalisme, il y a l'outillage de la paresse, il y a le fait de nous donner des pouvoirs au lieu de la puissance, il y a le fait de conjurer toutes les peurs, les incertitudes, l'improbabilité. Tout ça, c'est super puissant. Et il y a ce que j'appelle l'antique désir d'être Dieu, c'est-à-dire qu'en plus, ils nous font croire qu'on va tuer la mort, arrêter de vieillir, etc. Mm-hmm. Donc, on est face à cette économie-là, et avec l'idée qui vient du néolibéralisme, de dire que la liberté ne peut être que quelque chose d'individuel. Moi, je dis, il y a des liens qui libèrent. Les liens, ça peut être quelque chose de collectif.
Le collectif libère.
Le collectif libère, voilà. C'est-à-dire que les liens ne sont pas forcément des chaînes, le collectif n'est pas forcément une contrainte. Il y a des collectifs qui sont fabuleux, qui t'ouvrent, qui te nourrissent, qui te rendent riche, qui t'éclatent. Donc moi, dans les choses que je fais à mon petit niveau, mais on essaye de faire ce qu'on peut, quoi, c'est qu'on a ouvert une zone d'expérimentation dans les Alpes de Provence, voilà, ça s'appelle la ZES, qu'on adore les acronymes. Donc c'est zone d'expérimentation sociale, terrestre et enchanté. Voilà, le enchanté, il est
c'est
important.
C'est votre ZAD.
C'est ma ZAD, voilà, c'est ma ZAD, mais j'ai pas de zone à défendre. Ouais. On a acheté un super domaine qui fait 50 hectares, etc. avec l'argent que j'avais gagné sur les furtifs. Voilà, j'ai dit, bah, au lieu d'acheter ma piscine et mon chien et puis d'inviter mes copains chez moi le week-end, je vais faire un lieu, quoi.
Et
un
vous
lieu,
faites quoi, du fromage de chèvre?
On fait du maraîchage, déjà. Et on fait surtout des ateliers, des séminaires d'accueil militant, la résidence d'artistes. Et on en fait un lieu de brassage. Voilà, un lieu où, moi j'appelle ça un lieu de transformation politique. Donc on est 8 sur place, mais on fait venir énormément de gens. Voilà, et on fait des ateliers de création. On fait des ateliers d'artivisme. On mélange l'art et l'activisme. Et surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer d'incarner le monde qu'on aimerait voir, mm-hmm. en tout cas. Et quand on dit qu'ils battent le capitalisme sur terre du désir, ben c'est la qualité des liens, voilà. Donc on est ensemble, on fait des choses, on crée ensemble, on se bat ensemble, on milite ensemble, et ça redonne énormément de pêche, quoi. Voilà. Donc et c'est tout bête, mais retisser ce lien, réintensifier ces liens, renourrir ces liens, c'est précisément ce que le technocapitalisme essaye de nous enlever. Ils ont absenté les liens, ils les ont distancés, ils les ont. Donc le battre sur terrain désir, c'est le rebattre sur ce terrain-là, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment réussi. Et après, il y a ce lien au vivant qui est super important. C'est-à-dire que nous, en plus, on a les chamois, on est un territoire de loups, etc. Le lieu est super. Hein.
C'est ça, vous êtes connecté aux chamois et aux endives.
Ben ouais. Les endives, c'est important. Non, mais c'est vraiment important. Et il se passe beaucoup de choses en zone rurale. On le dit pas assez parce que les médias, ils sont très urbains. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en montagne, à la campagne. Il y a beaucoup d'oasis, de communautés, d'habitats partagés, de tiers-lieux, de quart-lieux, de zès, comme
ouais,
on fait.
Ouais, mais il y a une désertification aussi, donc.
Ouais, mais pas tant que ça, hein. Il y a un retour à la terre, en fait, hein. On est un peu comme dans les années 70. Il y a quand même un sacré retour à la terre. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle.
Aux médecins, peut-être.
Ou... Ouais, sauf les médecins. Mais franchement, il se passe pas mal de choses sur ces espèces de. Pour l'instant, c'est des petites zones, c'est des îlots. Moi, je tenais à pas dire c'est un domaine ou c'est une communauté. C'est pas du tout l'idée d'une communauté. Moi, j'ai pas du tout envie de faire une communauté. J'ai envie de faire un lieu de passage, de brassage, de et que ça nourrisse les gens qui passent et qu'ils amènent eux-mêmes ce qu'ils ont en eux. C'est ce que j'avais trouvé à la ZAD, que je trouvais fabuleux. C'est que c'était un lieu où il y avait 300 personnes sur la ZAD en habitants. Mais il y a eu des centaines de milliers de personnes qui sont passées, qui ont amené leur lutte, qui ont amené leur force, qui ont amené leur envie, qui ont amené leur désir. Et ça fait de ce lieu un lieu fabuleux, quoi, tu vois, qui a vraiment alimenté, je trouve, et la réflexion et la lutte en France pendant des années, quoi. Moi, je dis, sans expérimentation, tu peux pas réussir à changer ce monde. Il faut que les gens expérimentent autre chose. Voilà. Expérimenter autre chose, bah, c'est dans un autre lieu, avec d'autres gens, faire d'autres choses et, c'est pas tout de faire de l'imaginaire. Moi, j'ai beaucoup écrit. Ça fait 30 ans que je fais des livres d'imaginaire politique. Et les gens disent, ouais, c'est super, tu changes des trucs. Je dis, ouais. Mais moi, j'ai envie de faire concrètement des choses maintenant aussi où t'expérimentes ce que c'est un autre mode de vie et que tu te dis, ouais, bah, c'est possible quand même.
Voilà. Le tuto. Expérimentons. J'ai envie de me connecter à vous, Alain Damasio. Vraiment.
Super.
On a envie de se connecter à vous et on peut le faire à travers Vallée du Silicium, paru au Seuil dans les collections Albertine. Merci Alain. Bon, bah, chine, hein, ça donne la pêche, hein.
Bah voilà.
Notre conversation. Dites donc, c'est un samedi soir utile.
J'ai fini mon verre.
Bah ouais.
Non.
Allez, la petite sœur.
Ouais, non, ouais, c'est la grille, c'est bien. Moi, j'adore ces bières ouvertes, quoi.
Voilà, Bistroscopie, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Déjà, merci à ChatGPT qui a préparé cette interview. À Ophélie Vivier, chargée de programme. Anaïs Reynard à la réalisation. Hélène Langlois à la technique. Vincent Désière au mixage. Merci à Béatrice James à la documentation. Et à Djoubaka pour le choix musical. À samedi prochain, 19h20.